richesse, la commune, aimée, c'est la porte.
Ensemble sur Calade.
Le prof Patrick.
Allez, on retrouve tout de suite le prof Patrick avec nous. Bonjour prof Patrick.
Salut Mathieu, salut les auditeurs, content d'être de retour.
Et oui, ça fait plusieurs semaines que vous nous avez laissé en haleine.
Avec un suspense terrible sur deux chroniques sur l'énergie nucléaire et je vous avais promis une troisième et dernière partie. Ne t'inquiète pas Mathieu, après on passera à autre chose. Et la voici, cette troisième partie. Alors, petit rappel, dans la partie 1, j'ai fait une présentation historique de 50 ans d'énergie nucléaire en France et dans le monde. Dans la partie 2, on a découvert deux choses. D'abord, un, que le nucléaire représente des coûts absolument délirants et que sa maîtrise technique aujourd'hui est très problématique. Et deux, que pour autant, dans le contexte d'urgence de la lutte contre le réchauffement climatique, eh bien, le nucléaire est à peu près incontournable comme ingrédient du mix énergétique nécessaire, grâce à sa stabilité de sa production face aux problèmes d'intermittence des renouvelables. Mais tu me connais, Mathieu, j'aime pinailler, bien sûr. Hein ? Tu te rappelles qu'on avait repéré un mot magique derrière lequel la trajectoire nucléaire est fermée là, n'était plus si évidente que ça. Tu te souviens du mot magique ? Ah, c'était avant les vacances, il s'en rappelle plus, Mathieu.
Ça fait long
c'était
pour
le
moi.
Mot sobriété.
La sobriété, ah oui, voilà. Il y a plein de choses derrière ça.
Aussi bien RTE, c'est-à-dire l'organisme public de gestion des réseaux d'électricité de France, qui est un ex-EDF et qui est très pro-nucléaire, aussi bien RTE que le GIEC, qui est plus neutre sur la question, ont mis au point des scénarios sobriété qui se passent ou à minima qui réduisent fortement l'option nucléaire dans le mix énergétique global. Alors on va détailler la proposition d'un troisième acteur, ni RTE ni le GIEC, mais l'ADEME. L'ADEME, c'est l'Agence pour le développement, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, qui préfère aujourd'hui qu'on l'appelle l'Agence de la transition écologique. C'est une organisation publique qui œuvre depuis des décennies dans le domaine de la maîtrise de l'énergie. Et l'ADEME a aussi publié son rapport en novembre 2021, il n'y a donc pas très longtemps. Quatre scénarios proposés par l'ADEME. Deux scénarios sobriété, justement. Le premier s'appelle génération frugale, le deuxième s'appelle coopération territoriale. La philosophie de ces deux scénarios, c'est changeons nos modes de vie, réduisons notre consommation. Deux autres scénarios, technophiles. Le troisième s'appelle technologie verte, le quatrième, pari réparateur. Ces deux autres scénarios ont une philosophie très différente, c'est continuons sans rien changer et comptons sur la technologie pour nous sauver.
Ah ouais, pas mal, c'est bien ça.
Alors, comme le note Fabrice Boissier de l'ADEME, dans un article que je mettrai en lien, sur les trois leviers d'action dont on dispose, ces trois leviers, c'est la sobriété, c'est l'efficacité énergétique et c'est le recours aux énergies propres. Eh bien, le premier, la sobriété, c'est le seul de ces trois leviers qui n'est pas handicapé par des problèmes de faisabilité. Sauf que la sobriété, par contre, elle nécessite une vraie réflexion politique, politique au sens noble du terme, hein, sur un questionnement sur nos besoins individuels, nos besoins collectifs et des choix. Des choix dont certains iront dans le sens de la limitation, parce qu'il faut réduire notre impact sur l'environnement. Alors Fabrice Boissier relève des obstacles sérieux déjà à toute la thématique de la sobriété. Déjà, il y a le fameux effet rebond. Je ne sais pas si vous connaissez l'effet rebond. Est-ce que tu connais l'effet rebond, Mathieu ?
Non, mais je sens que vous allez nous l'expliquer.
Je vais te dire ça en deux mots, c'est très simple. À chaque fois qu'on arrive à améliorer la performance énergétique d'un produit, c'est-à-dire ce produit consomme moins d'énergie dans sa fabrication, eh bien cet avantage est contrebalancé par une augmentation quantitative de la consommation, enfin des ventes générales de ce produit. Ouais. Pensez aux ordinateurs. Vous pensez à la 5G au lieu de la 4G, c'est systématique. Ça, c'est un premier obstacle pour aller vers la sobriété. Deuxième obstacle, peut-être plus grave, à mon sens, notre imaginaire collectif, Mathieu. Il est fondé sur l'idée, être heureux, c'est consommer toujours plus.
Ouais.
Voilà. Et ça, pour enlever ça de la tête des gens, c'est pas facile. Petit exemple parmi tant d'autres, en 15 ans, nous Français, consommons aujourd'hui deux fois plus de vêtements. Aujourd'hui, qui a 15 ans.
Pour quelle raison ?
Aucune raison objective. Côté imaginaire collectif, on peut aussi mentionner celui de la réussite, réussite sociale, réussite familiale, qui correspond immanquablement à l'achat d'une maison individuelle. Oui, mais ça a des conséquences très lourdes sur l'organisation du territoire, sur les déplacements. Donc, côté transport et habitation, c'est rien d'autre que deux des trois plus gros pôles émetteurs de CO2. Et donc, on voit que notre imaginaire va être un gros problème. Alors, revenons malgré tout à ces deux scénarios sobriété de l'ADEME, qui font le pari de réussir à changer nos modes de vie. Le problème, c'est que le premier fait le pari d'une modification rapide de notre imaginaire au moyen de normes contraignantes. Les normes contraignantes, on a vu ce que ça donne en termes de réaction, hein, ouais. En termes de clivage dans la société, de tensions fortes, souvenons-nous des gilets jaunes. Le deuxième est fondé plutôt sur un consensus, mais consensus issu d'une gouvernance un peu multipartite. Ça, tu sais un peu ce qui se fait beaucoup en Allemagne, en Europe du Nord. Ouais, mais pas en France. Pas du tout en France. Hein. En France, on a un problème. Ouais. On a une élection présidentielle, ensuite un scrutin majoritaire à deux tours qui suit lors des élections législatives. Ce sont des machines à créer du clivage. La logique multipartite n'est pas possible en France. Rien n'oblige les gouvernants français à former des coalitions comme on peut en trouver en Allemagne. Et donc ça, c'est vraiment un gros problème pour la faisabilité de ces scénarios sobriété. Et c'est très dommage parce que ce sont ces scénarios qui permettraient à la fois d'accepter une prolongation de l'utilisation du nucléaire, mais dans une optique de diminution programmée sur 30 ans, tout en permettant d'atteindre les objectifs de 2050 par un vrai changement de comportement collectif. Alors à ce stade, on va se poser une question, Mathieu. Quelle est la vraie fonction du nucléaire, symboliquement parlant ? Alors comme d'habitude, on pose la question, on va la mettre de côté, on y reviendra après. Oui, parce que déjà, on peut noter que concrètement, hein, pas symboliquement, le nucléaire, il nous permet quoi ? Il nous permet de faire les kékés, d'accord ?
Ouais.
On est le pays d'Europe qui a la plus faible empreinte carbone. Donc on est fiers, hein, on se vante, on est content. Sauf que si on regarde le bilan des actions de ces 5 dernières années, alors là, on va être tout de suite moins fiers. L'Agence internationale de l'énergie a fait une analyse très détaillée, hein, de la performance de la France. Concernant les énergies renouvelables, eh bien, sur le plan 2015-2020, on a un retard. On a un retard, on a atteint 19,1% de consommation d'énergie brute finale brute fournie par les renouvelables. Ça aurait dû être 23,4%. On ne tient pas cet objectif, d'accord ? L'objectif qui a été fixé par le programme pluriannuel de l'énergie. Concernant les économies d'énergie, ben devine quoi ? On ne tient pas non plus les objectifs. On n'en a tenu aucun, en fait. Nous aurions dû baisser chaque année de 4% notre consommation d'énergie. D'accord ?
Ouais.
On a réussi à baisser une fois de 4% sur 10 ans. Voilà. Donc sur la période Hollande-Macron, on est vraiment sur un échec assez retentissant par rapport à tous les objectifs que nous sommes fixés. Hein. Mmh. En juin 2019, il y a le Haut Conseil pour le climat qui a publié un rapport et dans lequel il rajoute une couche. Hein. Il explique que le budget carbone 2015-2018 n'a pas été respecté. Il a été dépassé de 62 millions de tonnes de CO2. Que le rythme de réduction des gaz à effet de serre est deux fois trop lent par rapport au rythme qui serait nécessaire pour atteindre nos objectifs, etc. etc. Plus grave encore, ce même Haut Conseil pour le climat publie plus récemment une note en décembre dernier. Donc il n'y a pas très longtemps, et dans lequel il signale que l'objectif de réduction d'émissions de CO2 de la France, c'est moins 40% en 2030, il y a un problème maintenant. Parce qu'en fait, ça ne permettra pas d'atteindre les objectifs fixés à la COP26. Mmh. L'Union européenne le sait, elle est passée à moins 55% en 2030, mais pas la France.
D'accord.
Voilà. Donc on est sur une situation qui est très problématique malgré notre avantage nucléaire. C'est-à-dire qu'on a un investissement insuffisant. Ouais. Mais tout ça n'est pas très audible, Mathieu, dans le débat franco-français actuel. Parce que le débat franco-français actuel, début février 2022, c'est des élections présidentielles qui arrivent, d'accord ? Avec, en gros, si je simplifie, une gauche qui va vers une de ses plus grandes déroutes de ces 50 dernières années. On a tout le spectre de la droite qui est omniprésent dans cette campagne, de la droite libérale mondialiste de Macron à l'extrême droite zémouro-lepéniste, en passant par la droite conservatrice de Pécresse. Le point commun de tous ces braves gens, c'est qu'ils font tous le choix de la relance de l'énergie nucléaire, ok, mais la plupart d'entre eux sont allergiques à la notion de sobriété, qu'ils identifient à l'écologie punitive. Est-ce qu'ils ont tous conscience des incidences financières colossales du choix nucléaire, dont on a parlé dans la deuxième chronique ? Sans parler du prix à payer pour maintenir le parc nucléaire existant. On a vu les coûts énormes, hein, de mise à niveau, de démantèlement, de mise aux normes, de gestion des déchets. Je ne suis pas certain qu'ils aient conscience de l'immensité des incidences financières. Quand ils vont découvrir l'ampleur, eh bien, il est de la plus haute probabilité que l'affolement va les gagner. Et surtout si, ce qui est probablement le cas, la plupart feront un choix de baisse des dépenses publiques. Qui c'est qui va payer le choc, le prix de ce choc des priorités, à ton avis ? Ça ne sera pas le nucléaire, hein, bien sûr. Ce sera les énergies renouvelables. très probablement, on sait déjà avec les campagnes anti-éolien assez violentes de la part de la droite, qu'il va y avoir sans doute du retard qui sera pris sur le développement des énergies renouvelables. Et là, on va avoir un énorme problème parce que le mix énergétique peut inclure du nucléaire, mais nécessite absolument une progression forte de la mise en place d'infrastructures d'énergie renouvelable. Alors revenons à la question, Mathieu. Dans ce contexte, la vraie fonction symbolique du nucléaire dans le discours franco-français, c'est quoi ? Eh bien, c'est de maquiller sous un ton techno-optimiste triomphant le bon vieux « surtout ne changeons rien nos habitudes. Le monde entier doit faire des efforts, mais pas nous. » On pensait que les Américains avaient un copyright sur ce genre de discours, mais en fait, ils ne sont pas les seuls. On arrive à la fin de ces trois chroniques, mon cher Mathieu. Alors, je pourrais prudemment en rester là, hein, comme un prof doit le faire avec son devoir de réserve, mais non, je vais faire une exception à ce devoir de réserve. Que conclure de tout ça ? Doit-on ou pas utiliser l'énergie nucléaire ? Pour apporter une réponse personnelle à cette question, je vous propose celle de l'économiste Christian de Pertuis, dans un article récent que je mettrai en lien dans le podcast, parce que je souscris totalement à son analyse et à ses propositions. Trois points sur ces propositions. 1. Rappel de la priorité absolue à donner à la notion de sobriété énergétique. 2. Prolongation du parc nucléaire existant plutôt que de construire de nouveaux EPR. Ceci pour atteindre l'objectif non pas de 40% mais de 55% de baisse d'émissions de gaz à effet de serre en 2030. 3. Autre priorité absolue, le développement des renouvelables et pourquoi pas de la future filière hydrogène. Moralité de ces trois chroniques, mon cher Mathieu, sobriété et mix énergétique sont les deux clés de la réussite face aux enjeux climatiques.
Ouais.
J'en ai terminé.
Je retiens aussi le déni de l'importance du changement climatique et des choses à mettre
tout
en œuvre.
Tout à fait.
On est tout le temps en train de dire c'est pas grave, on s'en occupe.
Et de sous-estimer systématiquement l'importance des efforts. Et ben, résultat, en fait, on ne tient aucun de nos objectifs qui sont pourtant programmés depuis 2015. On n'en tient aucun, chaque année.
Allez, bah ce sera pour les générations futures, on va dire ça.
Exactement.
À bientôt, prof.
Salut Mathieu.
Ensemble sur Calade.